Il y a 2 ans, un prédicateur canadien animait des soirées d'évangélisation et de guérison, soi-disant, à Lakeland, en Floride. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Un stade de la ville était loué à hauteur de 15 000 dollars la soirée afin d'accueillir les milliers de personnes quotidiennes qui venaient assister au culte. Et les moyens mis en œuvre, comme vous le voyez, étaient colossaux. Projecteurs, groupes de rock, écrans géants, retransmissions en live sur Internet et aussi en prime time sur la chaîne de télévision par satellite qui s'appelle God TV. On a estimé qu'environ 400 000 personnes venues de 100 pays différents à peu près avaient assisté aux réunions, sans compter les millions de téléspectateurs. Il se trouve qu'après 4 mois de ministère à Lakeland, en Floride, ce fameux prédicateur canadien a annoncé son divorce pour cause d'infidélité envers sa femme. Et 7 mois plus tard, il était marié avec quelqu'un d'autre. Plus proche de nous, en France, autre ambiance. Dans les années 80, un prêtre s'attaque au douloureux problème des réseaux pédophiles internationaux. Il fonde des foyers en Afrique pour accueillir les enfants de la rue. Il reçoit la Légion d'honneur. Il s'engage avec Médecins du Monde. Et en 1999, il devient curé d'un ensemble de 16 paroisses, pas très loin d'ici, à Cluny, en Saône-et-Loire. Mais en 2005, après avoir été mis en examen, le prêtre est reconnu coupable de tentative de corruption, d'agression sexuelle et de viol sur mineur. Et il a été condamné à 8 ans de prison. Deux histoires récentes où on voit que le zèle religieux ne rime pas nécessairement avec la véritable piété chrétienne. Et vous, et moi, ce matin, quel zèle religieux déployons-nous pour aller à l'église le dimanche, pour incliner nos têtes au moment des prières, pour chanter avec enthousiasme nos beaux cantiques, peut-être pour faire l'aumône aux pauvres dans la rue, peut-être pour témoigner hardiment de l'évangile autour de nous, ou peut-être comme moi, de passer de longues heures à préparer une prédication. Quel zèle religieux déployons-nous dans notre vie? Et ce zèle religieux rime-t-il avec la véritable piété chrétienne? Eh bien, le texte qu'on va lire soulève, à mon avis, précisément cette question, pour nous mettre en garde contre un danger bien précis, et ce danger, c'est le danger de l'hypocrisie. Le danger de l'hypocrisie. Nous avons déjà pu voir, hein, depuis le temps qu'on étudie ce livre du prophète Amos, qu'un des principaux problèmes du peuple d'Israël à cette époque-là, c'est qu'il est présomptueux. Il pense être en bon terme avec Dieu, tandis que pour Dieu, ce n'est pas du tout le cas. Et les reproches que Dieu a faits à son peuple il y a maintenant 27 siècles ont gardé toute leur pertinence pour nous aujourd'hui, pour nous inciter à être extrêmement vigilants contre le danger de glisser petit à petit dans une forme d'hypocrisie et de finir en fait par chuter gravement. Alors, ce texte, à mon avis, va pointer la différence fondamentale qu'il y a entre la religion hypocrite et la religion véritable. Et pour nous montrer quel élément est indispensable pour que le zèle religieux puisse rimer avec la véritable piété chrétienne. Et cet élément qui change tout, cette qualité déterminante, nous allons le voir ce matin, c'est l'authenticité de la foi. C'est l'authenticité de la foi. Mais voyons d'abord comment le texte développe cette idée. Alors on va lire Amos chapitre 5, et on va lire à partir du verset 16, là où on s'était arrêté la semaine dernière. À partir du verset 16, on va lire jusqu'à la fin du chapitre 5. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira « Ah, ah !» On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui s'y connaissent en chants funèbres. Dans toutes les vignes, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Il en sera comme d'un homme qui fuit devant le lion et que rencontre l'ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord le serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais Je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos cérémonies. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Vos sacrifices de communion et les veaux gras, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc Sikout, votre roi, et Kiyoun, vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriquée. Et je vous déporterai au-delà de Damas, dit celui dont le nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, déjà en étudiant ce livre du prophète Amos, nous avons pu voir que parfois tes paroles sont dures à l'encontre de ton propre peuple. Seigneur, rends-nous sensibles à ta voix, sensibles à tes intentions dans nos vies. Seigneur, pour que nous puissions recevoir, sans être sur la défensive, recevoir ce que tu veux nous dire ce matin. Reprends-nous peut-être, corrige-nous, conduis-nous sur le chemin que tu veux pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors la première chose que dit Dieu à son peuple dans ce texte, versets 16 et 17, c'est qu'il va y avoir de terribles lamentations dans le pays. Est-ce que vous avez remarqué la façon dont Dieu insiste là-dessus? Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira « Et dans toutes les vignes, on se lamentera. Vous voyez, Dieu insiste sur cette réalité. Encore une fois, Dieu cherche à choquer le peuple en utilisant un langage très fort, un langage virulent. Dans ces trois versets, en réalité, on ne sait pas précisément pourquoi il y aura tant de lamentations. Qu'est-ce qui causera les pleurs du peuple? Mais ce qu'on sait, c'est que ce sera lié à une intervention de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, verset 17? Dans toutes les vignes, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi. Amos, d'ailleurs, insiste encore une fois, c'est pas la première fois qu'il le fait dans cet écrit, il insiste encore une fois sur l'identité de ce Dieu. On parle pas de n'importe quel Dieu, il dit dès le verset 16, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. » Encore une fois, Dieu cherche ici à briser les rêves de son peuple, à dissiper l'illusion dans laquelle ils vivent, parce qu'en réalité, à ce moment-là de l'histoire, en réalité, personne dans le peuple, globalement personne, ne croit au tableau que Dieu est en train de peindre. Et la première leçon qu'on peut tirer de ce texte au sujet de l'hypocrisie, c'est que les hypocrites ne voient pas qu'il y a un problème. Les hypocrites ne voient pas qu'il y a un problème. C'est un peu comme l'histoire vous la connaissez, cette histoire de l'homme qui tombe du 50e étage d'un gratte-ciel. Puis à chaque étage, il se dit, mais jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. 50e, 49e, 48e, bon, jusqu'ici, tout va bien. Dans le texte, le peuple d'Israël s'imagine que tout va bien, alors qu'en réalité, ils sont en train de tomber d'un gratte-ciel. Et à chaque étage, ils s'imaginent que tout va bien. Ils ne voient pas qu'il y a un problème, et c'est pour cela que Dieu veut les confronter à la réalité. Il veut les secouer. Il veut briser leurs rêves. C'est comme dans la fable de Jean de La Fontaine, je ne sais pas si vous la connaissez celle-là, le statuaire et la statue de Jupiter. Bref, le poète à la fin de la fable nous livre la morale, comme d'habitude de l'histoire, et il dit « Chacun tourne en réalité autant qu'il peut ses propres songes. L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges. » On est plus prompt à croire des mensonges qu'à croire la vérité. Et on se plaît bien dans les illusions que nous nous créons. Les hypocrites ne voient pas qu'il y a un problème. Et nous? Et nous, ce matin, est-ce que nous vivons au quotidien comme si tout allait bien? Comme si rien ne devait changer? Est-ce que la vie avec Dieu nous paraît facile? Ou bien, plutôt, est-ce que nous ressentons la tension qui existe entre qui est Dieu et qui nous sommes? Tout ne va pas bien. Il y a un problème. L'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur, il est un Dieu saint et redoutable, et moi je suis une pauvre créature enclin au mal, enclin à lui désobéir. L'apôtre Paul lui-même nous a livré un témoignage poignant de la tension, de la tension douloureuse dans laquelle il vivait en tant que chrétien. Et il a dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis !» Voilà le témoignage de l'apôtre Paul. Il y a un problème, il y a une tension, il y a une difficulté, tout ne va pas bien. Mais les hypocrites ne le voient pas. Puissions-nous avoir la même lucidité que l'apôtre Paul. Mais regardons la suite. Eh bien, la deuxième chose que dit Dieu à son peuple, à partir du verset 18, c'est que le jour du jugement sera un jour effroyable. Dieu décrit, en quelques paroles, la témérité, l'audace de certaines personnes dans le peuple qui sont tellement sûres d'elles qu'elles désirent le jour de l'Éternel. Verset 18. Mais Dieu, il veut renverser la situation et il dit que ce jour-là sera en réalité un jour de terrible désillusion pour les présomptueux et pour tous ceux qui s'obstinent dans l'hypocrisie. Dieu va intervenir, dit-il, pour juger son peuple et ce jugement sera parfaitement juste et il sera inéluctable. Les présomptueux pensent que cela ne les concerne pas. Ils pensent qu'ils ont des arguments à faire valoir au jour de l'Éternel. Ils sont sûrs d'eux. Mais Dieu dit qu'ils vont fuir devant le lion, et puis ensuite ils fuiront devant l'ours, et puis quand ils se seront abrités dans leur maison, derrière leur muraille, ce sera seulement pour se faire mordre par un serpent. Ils devront quand même répondre à la justice de Dieu, malgré tous les arguments qu'ils ont à faire valoir. Et la deuxième leçon qu'on peut tirer de ce texte au sujet de l'hypocrisie, c'est donc que les hypocrites ne craignent pas le jugement de Dieu. Les hypocrites ne craignent pas le jugement de Dieu. Vous avez déjà entendu parler d'une personne qui s'appelait Dominique Gay-Mariol. Dominique Gay-Mariol, ça vous dit quelque chose? Non, alors vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui, un peu de culture générale. C'était un valeureux soldat au service de Napoléon. Et un jour, lorsque l'empereur passait ses troupes en revue, ce monsieur Gay-Mariol, Dominique du prénom, pose précipitamment sa carabine par terre et s'empare d'un canon dans les bras au moment de présenter les armes devant l'empereur, vous voyez. Il voulait montrer à Napoléon combien il était intrépide et sûr de lui. Je n'avais pas présenté une vulgaire carabine, mais plutôt un canon. Moi, je suis valeureux, je suis courageux, je suis intrépide. Et puis, vous savez, selon la tradition, c'est de cette histoire qu'est née l'expression « faire le mariole », qui signifie faire l'intéressant, hein, faire le malin. Ok ? À ce qui paraît, Napoléon aurait apprécié le geste de Dominique. Mais le problème, c'est que nous, ce n'est pas devant Napoléon que nous devons nous présenter. Hein. C'est devant le juste juge qui ne tient pas le coupable pour innocent. Et devant lui, il n'est pas question de faire le mariole. Pas question. Les hypocrites ne craignent pas le jugement de Dieu. Comment réagissons-nous aujourd'hui à l'idée qu'un jour Dieu va parfaitement juger le monde? Qu'est-ce que ça nous fait de le savoir? Est-ce que nous faisons les marioles en pensant que nous n'avons rien à craindre, puisque nous sommes des personnes quand même relativement bonnes? Dieu va nous laisser passer quand même un certain nombre de choses, on n'est pas des terroristes. Est-ce qu'on a hâte d'y être, en se disant qu'enfin tel ou tel voisin ou frère va devoir répondre devant Dieu de ses erreurs? Ou bien plutôt, est-ce que la perspective du jugement de Dieu nous pousse plutôt à l'humilité, à la sobriété et à l'examen de soi? Le jour du jugement de Dieu sera effroyable. C'est pourquoi Jésus dit dans la parabole des 10 vierges, que vous trouverez dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, dans la parabole des 10 vierges, Jésus dit que celles parmi les vierges qui attendent la venue de l'époux sans s'y être préparées, Jésus dit, elles sont folles. Elles attendent, elles sont impatientes que l'époux arrive, mais elles ne se sont pas préparées. Elles sont folles. C'est pourquoi aussi l'apôtre Paul nous exhorte non pas à la témérité, non pas à faire le mariol, mais bien plutôt à être sobre lorsqu'il écrit dans la première épître aux Thessaloniciens, il écrit ceci. « Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Et un peu plus loin, « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Le jugement de Dieu est effroyable, mais les hypocrites ne le craignent pas. Puissions-nous veiller et rester sobres, et comme le dit l'Écriture, nous exhorter mutuellement, et cela d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher, comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Mais regardons la suite du texte. À partir du verset 21, la troisième chose que dit Dieu à son peuple, c'est que la religion lui est détestable quand elle est dénuée de la vraie foi. La religion lui est détestable quand elle est dénuée de la vraie foi. Dieu ne mâche pas ses mots, encore une fois, pour rejeter le culte que lui offre le peuple. Et Dieu rejette tout en bloc. Les fêtes, les assemblées solennelles, les holocaustes, les offrandes, les sacrifices de communion, les chants, même la musique instrumentale. Dieu rejette tout dans ses versets. Tout cela est haïssable à ses yeux, bien que tout cela lui soit présenté à lui, à l'Éternel, à Jéhovah ou Yahvé, selon la prononciation que vous préférez. Pourquoi est-ce qu'il rejette tout cela ? Parce que ce culte est dénué de la vraie foi qui est censée se traduire par une vie droite et juste. Regardez ce qui est dit au verset 24. Je rejette tout ça, etc. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Voilà ce que je recherche. Je recherche la vraie foi qui se traduit par une vie droite et juste. Ça, c'est le signe de la vraie foi. C'est ça qui compte pour Dieu. On peut imiter un culte, on peut imiter des rites, on peut faire semblant, mais au sujet de la vraie foi, on ne peut pas. On ne peut pas limiter la vraie foi. On ne peut pas faire semblant. Alors la troisième leçon qu'on peut tirer de ce texte concernant les hypocrites, concernant l'hypocrisie plutôt, c'est que les hypocrites n'ont pas la foi authentique. Les hypocrites n'ont pas la foi authentique. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la femme la plus malheureuse du monde. La femme la plus malheureuse du monde, vous savez quoi ? C'est une femme qui se réveille chaque matin et qui trouve sur sa table de chevet un bouquet de roses fraîchement cueilli par son mari. À côté du bouquet, comme tous les jours, il y a un plateau pour son petit déjeuner avec ses viennoiseries préférées et un délicieux café que son mari lui a préparé. Un poème d'amour aussi d'ailleurs sur cette table de chevet. Un poème différent chaque matin, composé par son mari. D'ailleurs, celui-ci se lève tôt, tous les jours, et en profite pour faire la vaisselle et pour ranger le linge de cette femme la plus malheureuse du monde. Et oui, elle est la femme la plus malheureuse du monde, vous savez pourquoi ? Parce que tous les soirs, son mari boit. Il se rend ivre et il la frappe. De la même façon que l'amour authentique ne se mesure pas au déploiement d'artifices dont on est capable. La foi authentique ne se mesure pas au zèle religieux dont on est capable de faire preuve. La foi authentique se mesure à la transformation profonde d'une vie. Que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Voilà ce que Dieu recherche. Ça, c'est le signe de la vraie foi. Les hypocrites n'ont pas la foi authentique. Et nous alors ? Est-ce que nous sommes indifférents aux prescriptions de la parole de Dieu ? Est-ce que notre vie privée du lundi au samedi ressemble à s'y méprendre à celle de n'importe quel autre incroyant ? Ou bien, plutôt, est-ce que nous avons ce désir profond, irrépressible, de voir les ordonnances de Dieu se réaliser dans notre vie ? Comme le psalmiste qui s'écrie en prière, la parole que Jonas a lue tout à l'heure, « Puisse mes voies être bien réglées afin que j'observe tes prescriptions. » Le cri du psalmiste, le cri du cœur. « Puisse mes voies être bien réglées afin que j'observe tes prescriptions. » Ça, c'est pas un hypocrite qui a écrit ça. La foi authentique, c'est un renoncement à soi et une confiance totale placée en Dieu. C'est de cette foi authentique que notre culte et notre religion doivent découler. Autrement, tout ce que nous faisons extérieurement pour Dieu lui est en réalité détestable. Mais les hypocrites n'ont pas cette foi authentique. Puissions-nous renoncer à nous-mêmes et recevoir pleinement le règne de Dieu dans notre vie. Et cela, d'autant plus que la suite et la fin du passage, va, si j'ose dire, enfoncer le clou. Et regardons la suite et la fin de ce passage, versets 25 à 27. La dernière chose que fait Dieu dans ce passage, en s'adressant à son peuple, c'est de rappeler à son peuple un souvenir douloureux. Et ce souvenir douloureux qu'il rappelle à son peuple, c'est le souvenir des 40 années passées dans le désert, bien des siècles auparavant dans l'histoire d'Israël. Juste après, rappelez-vous que le peuple ait été délivré spectaculairement par Dieu de l'esclavage d'Égypte. Vous vous souvenez de cette histoire ? Dieu pose une question grinçante aux Israélites ici au verset 25. « M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël ?» Cette question était censée leur rappeler à ce peuple d'Israël, parce que oui, ils ont offert des sacrifices et des offrandes dans le désert, mais, et il y a un grand mais, ils se souviennent en entendant cette question que même juste après la libération d'Égypte, même juste après avoir vu Dieu les délivrer de manière spectaculaire, même juste après, ils avaient été incrédules devant la grâce de Dieu. Et cela avait abouti à des pratiques idolâtres mêlées au culte de l'Éternel. Oui, ils ont offert des sacrifices, des offrandes, mais il y avait aussi ce sikout et ce kiyoun, notre idole, et puis l'étoile de notre Dieu qu'on s'était fabriqué. Oui, il y avait ça aussi. Dieu est en train de rappeler un souvenir douloureux. Il est en train de leur rappeler qu'ils avaient été incrédules devant la grâce de Dieu et que cela avait abouti à des pratiques idolâtres mélangées avec le culte de l'Éternel. C'est un problème ancien, voilà ce que Dieu est en train de dire. C'est un problème ancien, rappelez-vous, même quand je vous ai délivré d'Égypte, votre incrédulité. Et cette incrédulité, ils s'en souviennent, hein, avait eu des conséquences désastreuses. Et vous aussi, vous vous en souvenez peut-être, pendant 40 ans, ils sont restés aérés dans le désert alors qu'à l'origine, ils devaient entrer en terre promise. Et pendant ces 40 années, toute une génération a passé et a été privée de terre promise. Conséquences désastreuses. Et maintenant, Dieu annonce à son peuple qu'ils vont être déportés conformément aux nombreux avertissements qu'il avait donnés. La dernière leçon donc que nous pouvons tirer de ce texte au sujet de l'hypocrisie, c'est que les hypocrites, au fond, ne croient pas à la grâce de Dieu. Les hypocrites, au fond, ne croient pas à la grâce de Dieu. Imaginez que vous soyez un amateur de haute cuisine, la plus haute qui soit, d'accord ? Et qu'un jour, un ami vous offre discrètement pour votre anniversaire une enveloppe soigneusement cachetée. Et à l'intérieur de l'enveloppe que vous ouvrez discrètement, vous avez compris que ce n'est pas tout le monde qui devait le voir, vous ouvrez et que trouvez-vous la recette confidentielle d'un des plats les plus réputés de Paul Bocuse. Vous ne savez pas comment votre ami a réussi à se procurer ce précieux sésame. Mais, dès le lendemain, vous comptez vous préparer ce bon petit plat de Paul Bocuse en personne. Vous commencez à suivre la recette, bien sûr. Mais en cours de route, vous commencez à vous dire « Tiens, je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus de safran. Et moins d'ail. Et si je montais un peu la température du four ?» Tiens, j'ai pas assez d'estragon, je vais remplacer par du persil. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous pensez qu'à la fin, vous obtiendriez le plat délicieux de Paul Bocuse et que vous pourriez le servir dans son restaurant, là, à Collonges-au-Mont-d'Or, pas très loin d'ici ? Certainement pas. Certainement pas. Votre incrédulité devant le talent et la compétence de Paul Bocuse aura abouti à un plat totalement altéré. Votre incrédulité devant le talent et la compétence de Paul Bocuse aura abouti à un plat totalement altéré. De la même façon, mes amis, l'incrédulité devant la grâce de Dieu aboutit à une religion frelatée, une religion empoisonnée. En Égypte, Dieu avait manifesté à bras étendus sa justice, sa puissance, et sa grâce, il avait fait aux yeux des nations, aux yeux de son peuple. Dieu avait tout fait en faveur de son peuple. Tout fait. Le peuple y était pour rien du tout. Dieu l'a libéré d'Égypte, à bras étendus. Mais le peuple n'y a pas cru. Il s'est inventé des idoles, comme pour compléter une grâce qui n'aurait pas été suffisante d'après eux, et des promesses qui n'auraient pas été assez dignes de confiance d'après eux. Et le peuple, par conséquent, a été privé de terre promise. Cela n'a pas empêché Dieu pourtant de renouveler ses promesses de grâce. Et conformément à ses promesses, le fameux Messie a fini par venir en la personne de Jésus-Christ pour délivrer son peuple, une fois de plus, à bras étendus, mais pour le délivrer cette fois d'un ennemi bien plus redoutable que l'oppresseur égyptien, à savoir le péché lui-même. Le péché lui-même. Et là aussi, Dieu a manifesté à bras étendus sa justice, sa puissance et sa grâce. Il a manifesté sa justice en punissant les fautes de son peuple à la croix, mais pas sur son peuple. Il les a punis plutôt sur son propre fils, comme en un sacrifice d'expiation. Il a manifesté sa puissance également. Comment ? En ressuscitant Jésus d'entre les morts comme gage suprême de sa victoire totale sur le péché et sur la mort. Et puis il a manifesté sa grâce, enfin, en promettant à tous ceux qui se confient en Jésus le pardon de leurs fautes et l'assurance de la vie éternelle, bien que les hommes ne le méritent pas. Mais les hypocrites n'y croient pas. Les hypocrites ne croient pas vraiment à la grâce de Dieu. Et nous alors ? Et nous ce matin ? Est-ce que le prix de notre pardon que Jésus a payé nous laisse indifférents ? Est-ce que le Christ victorieux est pour nous un grand roi à côté d'autres rois ? Est-ce que l'évangile est pertinent pour nous le dimanche et pour certains casiers de notre vie, tandis que pour d'autres jours et pour d'autres casiers, ce sont d'autres choses qui nous régissent ? Ce sont d'autres rois, ce sont d'autres dieux, des dieux qu'on s'est fabriqués. Ou bien plutôt, reconnaissons-nous que la grâce de Dieu est absolument suffisante et que le règne de Jésus-Christ est suprême et qu'il n'y a pas d'idole qui soit excusable ni de péché qui soit mignon. Avons-nous cédé notre vie tout entière à celui qui l'a rachetée tout entière ? Est-ce qu'on peut dire avec l'apôtre Paul cette parole incroyable ? Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et Paul ajoute dans une autre épître, comme pour nous rappeler qu'il n'y a rien à ajouter pour compléter à la grâce de Dieu, il dit, Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce ? La grâce de Dieu est suffisante. Elle est suffisante. Mais les hypocrites n'y croient pas au fond. Ils restent incrédules. Mais puissions-nous garder les yeux fixés sur la croix, là où Dieu a manifesté son parfait amour pour nous. Alors en introduction, on parlait de ces exemples de déploiement de zèle religieux qui ne rimaient pas avec la véritable piété chrétienne. Nous aussi, nous sommes enclins à déployer ce genre de zèle religieux, alors sans doute de façon différente les uns des autres. Et dans notre vie, ce zèle religieux rime-t-il vraiment avec la véritable piété chrétienne ? Le texte que nous avons étudié ce matin nous a mis en garde contre un réel danger, le danger de l'hypocrisie. On ne peut pas dire, mes amis, qu'il y a les hypocrites d'un côté et puis les vrais croyants de l'autre. En réalité, c'est beaucoup plus flou que ça. Dans la Bible, l'hypocrisie, en réalité, c'est un danger qui nous guette. Qui nous guette ? Aussi sincère que nous puissions être, l'hypocrisie nous guette. Et les apôtres nous incitent à la plus grande des vigilances, comme le dit l'Écriture, de peur d'aller à la dérive. De peur d'aller à la dérive. Vigilance, attention, l'hypocrisie nous guette. Souvenons-nous donc de la mise en garde de ces paroles du prophète Amos, où nous avons pu voir comment l'hypocrisie nous était décrite. Vous avez les quatre points au dos de vos feuillets. Les hypocrites ne voient pas qu'il y a un problème. Les hypocrites ne craignent pas le jugement de Dieu. Les hypocrites n'ont pas la foi authentique. Et les hypocrites ne croient pas vraiment à la grâce de Dieu. Vous voyez que ce texte a pointé la différence fondamentale qu'il y avait entre la religion hypocrite et la religion véritable. et nous a montré quel était cet élément indispensable pour que le zèle religieux dans notre vie puisse rimer avec la vraie piété chrétienne. Et cet élément incontournable, cet élément qui change tout, cette qualité déterminante, c'est l'authenticité de la foi. L'authenticité d'une vraie foi. Et la foi, d'après l'Écriture, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Vous connaissez bien ce verset, j'espère, Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire une confiance totale placée dans les promesses de Dieu, notamment dans sa parole. L'assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère ? On espère tout ce que Dieu nous dit dans la parole, toutes ses promesses. La foi, c'est l'assurance de ces choses. Mais c'est aussi, nous dit l'apôtre, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et ça veut dire une vie transformée. Une démonstration, une manifestation des choses qu'on ne voit pas. Une vie transformée sous l'effet de la parole de Dieu et par le zèle authentique que donne l'évangile de paix. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous entendons ta parole, nous entendons parfois ta correction et nous voulons nous humilier devant toi et reconnaître, oui, que nous sommes pécheurs. Oui, que nous vivons dans cette tension entre qui tu es et qui nous sommes. Oui, que nous sommes enclins à sous-estimer ta grâce et combien elle est absolument suffisante pour nous. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, par le moyen de ton Esprit Saint, par le moyen de sa puissance, à l'œuvre dans notre vie. Aide-nous à grandir en confiance et en assurance dans tes promesses, à grandir en foi. Au nom de Jésus. Amen.